Indépendie et francophonance. Une émission dans la thématique 50 ans d'indépendance africaine et après. Après le Maroc et la Tunisie en 1956 et la Guinée en 1958, l'année 1960 voit un grand nombre de pays d'Afrique accéder enfin à l'indépendance. Togo, Cameroun, Madagascar, Sénégal, Mali, Tchad, Congo, Gabon, Dahomey, Niger, Haute-Volta, Côte d'Ivoire s'affranchissent enfin de la tutelle coloniale française. Si 50 ans plus tard, l'indépendance politique de ces pays est acquise et entérinée, il reste néanmoins dans ce que l'on qualifie pudiquement de zone d'influence de la France, une influence qui se manifeste notamment dans les secteurs économiques et culturels. Ainsi, en 2010, la langue française reste langue officielle pour bon nombre de ces pays, bien que parlée par à peine 10% de leur population. C'est tout le paradoxe de la francophonie, espace d'expression et de critique entre les mains des élites, en même temps qu'instrument d'une domination culturelle au service des stratégies géopolitiques de la France. Indépendance et francophonie, indépendie et francophonance, deux notions imbriquées dans l'histoire et qu'il convient aujourd'hui de démêler grâce au regard croisé de Boubacar Boris Diop, romancier, essayiste, et de Dragos Ouedraogo, anthropologue et cinéaste.
Boris Boubacar Diop, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur de nombreux romans, textes et essais. Vous êtes né à Dakar, quelques années avant l'indépendance du Sénégal en 1960. Alors vous étiez tout jeune homme, mais quel souvenir gardez-vous de cette année 1960, cette année de l'indépendance ?
Bizarrement aucun, c'est la première fois qu'on me pose la question. C'est très très intéressant, je ne me souviens vraiment de rien. J'étais au lycée en fait, et j'appartiens à une famille très politisée, qui a été assez impliquée dans toutes ces affaires, mais ce jour-là lui-même, et même autour de la période, très franchement, pas grand-chose, oui.
Bon, un événement qui peut-être résonne plus aujourd'hui qu'il ne résonnait à l'époque pour vous. L'écrivain algérien Kateb Yassine disait que la langue française était un butin de guerre, bien entendu, c'était à l'issue de la guerre d'Algérie. Qu'en pensez-vous de cette idée de la langue française butin de guerre ?
Je n'aime pas du tout cette idée. Cette phrase, elle est souvent citée pour la critiquer. Il y a la même chose chez Massa Makan Diabaté qui disait « Ah oui, la langue française, il faut la violer pour lui faire des petits bâtards. » Vous savez, on a à peu près les mêmes phrases chez le romancier ivoirien Ahmadou Kourouma. Tout ça, c'est cette idée que la langue française, elle n'appartient pas aux Français. C'est vrai d'une certaine façon. Aucune langue au monde n'est l'exclusivité de ceux qui l'ont créée, qui la parlent. Elle est encore moins lorsqu'il y a eu un rapport colonial, un rapport de domination. Mais en même temps, ces assertions, ces formules semblent signifier, sans oser l'assumer ouvertement, oui, on est bien avec la langue française et nous n'avons rien à faire avec nos propres langues. Ben voilà. Et je sais très bien qu'en France, dans les milieux qui s'occupent de francophonie, on aime tout particulièrement cette idée-là. Oh, la langue française, elle appartient à tout le monde. Chacun en fait ce qu'il, veut. Oui, oui, pourquoi pas. Moi-même, j'écris en français. Mais en même temps, si ça doit signifier la mort de nos langues, voire, comme chez Kuruma, la dissolution de nos langues dans la langue française, sous prétexte de créer une espèce de modèle mixte qui ne ressemble à rien, eh bien, je dis que je ne suis pas d'accord. J'aime bien l'auteur Katéliassine. J'ai un respect immense pour l'auteur de Nejma, d'autres textes, hein, le cercle des représailles. Mais franchement, cette phrase-là, qui est bien jolie d'ailleurs, hein, qui est très intelligente, elle m'agace énormément. En tout cas, je ne partage pas du tout cette idée.
Dragos Ouedraogo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous enseignez l'anthropologie visuelle et l'interculturalité à l'Université de Bordeaux, mais vous êtes aussi et surtout cinéaste, et puis aussi musicien et critique de cinéma. Vous êtes né et vous avez grandi au Burkina Faso, ex-Haute-Volta, du temps de la colonisation française, un des pays ayant acquis son indépendance en 1960. Alors peut-être, comment la francophonie s'articule-t-elle avec la vie culturelle et politique de ces pays, dont on fête le cinquantenaire de l'indépendance? Tel est l'objet de cette émission, et je vous propose, comme je viens de le faire avec l'écrivain Boubacar Diop, de commenter cette phrase célèbre de l'écrivain algérien Kateb Yassine, qui qualifie la langue française de « butin de guerre ». Qu'en pensez-vous ?
Qualifiée de butin de guerre. Bon, moi je pense que cette langue s'est imposée dans un contexte de violence coloniale. De ce point de vue-là, parce que la langue française accompagnait les politiques de domination coloniale, on l'a instituée comme langue d'enseignement dans les écoles. On l'a instituée comme langue de l'administration dans les pays colonisés. Et l'objectif, c'était de poser une culture et de nier les cultures locales. On formait une élite qui devait servir de courroie de transmission des politiques de domination sur tous les plans, économique, politique, sociale et culturelle.
Selon vous, la langue française était donc un des instruments de la colonisation?
Ah oui, c'était un des instruments, un instrument majeur. Dans la mesure, la langue étant le véhicule d'une culture, à travers la langue française, on dominait les cultures locales, on les niait, on les mettait à la marge. Et c'est d'autant plus violent que c'est dans un contexte où les gens ne peuvent plus se référer à leur culture locale. Mais uniquement la langue française, quoi. Moi, je vais paraphraser le général de Gaulle lorsqu'il parlait de la langue française et de son statut dans les anciennes colonies. Il a dit explicitement que la langue en Afrique constituait un marché pour la France. Parce qu'effectivement, si on impose la langue française, on crée des rapports étroit avec l'ancienne métropole coloniale française, et par ce biais-là, ça permet de diffuser la culture, diffuser aussi des objets de consommation, des produits manufacturés, et créer un marché pour l'influence des multinationales françaises.
Léopold Sédar Senghor, chant du feu. Feu que les hommes regardent dans la nuit profonde. Feu qui brûle, ne chauffe pas, qui brille, ne brûle pas. Eux qui volent sans corps, sans cœur, qui ne connaît case ni foyer. Eux transparents des palmes, un homme sans peur n'avance.
Passé l'euphorie des années de l'indépendance, on s'est vite rendu compte de la volonté du gouvernement français de préserver ses zones d'influence en Afrique noire, une forme de post-colonialisme qui s'est notamment traduite par la politique dite de la France-Afrique. Pensez-vous que la francophonie a pu être, d'une certaine manière, l'instrument de cette France-Afrique, d'une tutelle néocoloniale ?
Boubacar Boris Diop.
Pour moi, il n'y a pas de doute. Vous savez, parfois, je me dis, les anciennes puissances coloniales doivent être béates d'admiration devant la façon magistrale dont la France a négocié les indépendances. Quand elle a compris que c'était vraiment pas possible de s'opposer par la force à la volonté des peuples, je pense qu'elle a fait une espèce de rétablissement qui a été extrêmement intelligente, qui a été de dire on va quitter l'Afrique, on va donner l'indépendance, mais ce sera pour mieux y rester. Alors, la période s'y prêtait, c'était la guerre froide, et puisqu'on était dans la guerre froide, personne ne voulait y regarder de près. On était dans une logique d'alliance. Et la France en a profité pour arranger ses affaires. Et ce qui se passe, c'est que après la guerre froide, cette logique d'influence, elle subsiste dans la partie française. Mais ça a été, je pense, beaucoup, beaucoup grâce à la langue française. Ça a été beaucoup grâce à la francophonie qui a permis un travail de proximité. Un travail de contrôle sur les élites des pays comme le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, etc. Oui, je pense que vraiment, ça a été un instrument qui a arrangé les affaires de la France. Hein. Ça me paraît assez clair, oui.
En corollaire à cette question, et puisque vous évoquiez la question des élites et du contrôle des élites, est-ce que vous ne pensez pas que la francophonie entretient une élite aux dépens des classes populaires dans les pays d'Afrique noire ?
Mais la coupure est tellement nette et ça crée deux mondes, deux univers qui ne se mélangent pas du tout. Vous savez, vous prenez un pays comme le Sénégal et on vous dit, que le fondateur, le grand prêtre du mouvement de la francophonie, paix à son âme, eh bien c'était Senghor, qui a fini à l'Académie française. Il est dit dans la Constitution que la langue officielle, c'est la langue française, et pourtant, vous avez une société où les locuteurs de français, mais c'est une infinie minorité. Je crois que les chiffres les plus optimistes disent pas plus de 10% qui parlent, comprennent et écrivent la langue française. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que on a une langue qui est la langue officielle, on est officiellement un pays francophone, mais cette langue-là, on ne la maîtrise pas. Et il y a une élite qui est tournée vers Paris, qui est tournée vers la langue française et qui n'a aucun, qui est fascinée en réalité par les modèles extérieurs, mais qui n'a absolument aucun rapport avec ce qui se passe dans la société, avec ce que vous appelez, c'est justement les classes populaires. Et ces dernières, finalement, rien n'est fait pour leur permettre de connaître leur propre langue, qui peut être le Diola, le Sérère, le Wolof. Rien n'est fait parce que on est un pays francophone, mais en même temps, le système éducatif dans lequel on est censé enseigner la langue française est dans un tel état de réduction, quasi détruit, en ruine, que bon, finalement, on a maintenant ce que les linguistes appellent des populations semi-lingues. C'est-à-dire, on baragouine un peu sa langue maternelle, on baragouine un peu le français, et puis voilà, on a une espèce d'identité linguistique flottante. On ne s'améliore dans aucune des deux langues.
Aujourd'hui, 50 ans après cette époque coloniale, et bien que le Burkina Faso soit riche de plus de 60 langues et dialectes, comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la langue officielle et administrative reste aujourd'hui le français. Comment percevez-vous ce qui pourrait apparaître comme une persistance de cette colonisation dont nous venons de parler? Une sorte de néocolonialisme linguistique?
Oui, exactement, je pense que le mot est juste.
Dragos Ouedraogo.
Parlé par à peine un dixième de la population, la langue française est considérée, elle occupe le statut de langue officielle, donc de langue dominante, et les langues locales sont complètement hors des sphères de l'administration. Par exemple, même le paysan, quand il va s'adresser à l'administration dans avec une préfecture, une sous-préfecture, etc., ben, la langue de l'administration, c'est le français, ça dit que même lui, il ne peut pas s'adresser aux agents de l'administration dans sa langue. Tous les documents officiels sont rédigés en français, et donc du coup, ben, il est exclu. Et ça pose une question de fond, c'est-à-dire, si on exclut plus de 90% de la population, les gens qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas été à l'école, donc qui n'ont pas appris le français, ces gens-là, ça dit que leur voix ne compte pas. Ils n'ont pas voix au chapitre.
Donc au fond, cette langue française et sa persistance, elle accentue les clivages sociaux à l'intérieur du pays.
Elle accentue les clivages sociaux et surtout, on en a fait une langue de l'élite. Et ça, du point de vue de la démocratie, ça veut dire que on a favorisé l'émergence d'une élite qui s'exprime en français, et qui sert toujours de courroie de transmission pour les politiques de domination. C'est-à-dire qu'on a perpétué la logique du système colonial, qui à l'époque avait besoin de se créer des auxiliaires, une petite élite locale qui comprend la langue française et qui va servir d'intermédiaire à l'administration coloniale pour s'adresser aux populations. Après, par rapport à aux droits des populations, à leur qui s'expriment dans leur propre langue, c'est pas pris en compte.
De l'articulation justement entre le français et ces langues que vous appelez langues maternelles. Dans l'Afrique au-delà du miroir, un essai que vous avez fait paraître je crois en 2007, vous dites ceci. Notre aliénation est en vérité si profonde que le retour à soi-même demande du courage et même un brin de folie. Mais celui qui ose cette aventure en est largement récompensé, car écrire dans sa langue maternelle fait éprouver des sensations absolument inouïes. Alors vous-même, en tant qu'écrivain, comment vivez-vous cette dualité entre langue maternelle et puis une autre langue, le français, qui vous permet d'atteindre un lectorat international? Est-ce que c'est pas une forme de schizophrénie?
Boubacar Boris Diop.
Oui, c'est une forme de schizophrénie. Ça, je le veux bien. Mais ce n'est quand même pas le propre des intellectuels africains. On est intellectuel dans aucune société au monde sans être divisé, sans être schizophrène. Et l'idée que la langue française permet d'atteindre un lectorat international, je demande à voir. Oui, lorsque j'écris en français, ce que j'ai dans l'immédiat, c'est un lectorat plus diversifié. Je vais être lu par des Camerounais, par des Canadiens, par des Italiens, etc. Pour ceux qui comprennent cette langue française qui a une certaine diffusion. Moi, je m'insurge. Et c'est cela le sens de la phrase que vous avez citée. Je m'insurge contre ce que j'appelle la dictature de la réception du texte. Des statuts de la réception du texte qui signifie que finalement on s'intéresse plus, même en tant qu'écrivain, à la question où va mon texte, qui va le lire, quelle librairie, quelles émissions littéraires, quelle critique va en parler. On s'intéresse plus à ça qu'à ce que j'appelle la production du texte, qui est quand même quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est un appel, qui est quelque chose qui est dans la rupture, qui est quelque chose qui est implacable, qui ne fait pas de compromis. Vous comprenez? Et si le texte vient, selon moi, d'assez loin, il finira bien par s'imposer. Et donc, la réception du texte, le point de vue de la réception du texte, moi je le récuse. Ce qui m'intéresse, c'est pas où va le texte, mais d'où il vient. Et selon moi, plus il vient de près, plus il est fort. Et venir de près, ça veut dire venir de la langue maternelle. Pendant longtemps, j'ai pensé que, compte tenu de ma formation littéraire, compte tenu d'un certain nombre de facteurs objectifs, que je ne serais jamais capable d'écrire dans ma langue maternelle. Et donc, j'ai commencé, c'était difficile. Et donc, j'ai persévéré, et après, je me suis rendu compte que, assez bizarrement, écrire dans ma langue maternelle, c'était infiniment plus facile pour moi que d'écrire dans la langue française, que j'ai pourtant apprise à coups de petits coups de bâton sur les doigts, les punitions, les machins. Et puis j'ai tellement aimé ça. Mais je me suis rendu compte que, malgré tout, c'est tellement plus difficile, c'est tellement plus compliqué pour moi, je dois faire tant de contorsions que je n'ai pas besoin de faire lorsque j'écris dans ma langue maternelle. Et c'est ça que j'appelle des sensations inouïes que j'éprouve en écrivant en wolof, et jamais quand j'écris en français. La preuve, c'est que c'est des lectures en français et en wolof. Et je vous assure, lorsque je suis avec des Sénégalais quelque part en Allemagne, on se retrouve, et puis bon, je lis des extraits en wolof, les réactions, c'est juste incontrôlable. Voilà. Je crois que le rapport que l'on a avec sa langue, c'est quelque chose de quasi énigmatique. On ne peut pas l'expliquer. C'est très, très, très fort. Et le fait d'écrire dans la langue de l'autre, on a vraiment l'impression que cela va de soi, que c'est évident, que ça ne pose pas de problème. Mais en réalité, autant la langue comme moyen de communication quotidienne, ça fait pas de différence. Hein. Si je perds mon chemin dans Johannesburg, je peux demander à n'importe qui, bon ben voilà, mon chemin, je peux demander en anglais, en wolof, etc. Ça ne fait pas de différence. Mais quand il s'agit de création littéraire, ça vient de si loin que on est dans l'ordre de l'indicible. On est sur les marges, on est vraiment sur le fil du rasoir. Il y a des choses tellement, je sais pas, tellement infinitésimales, tellement fines que l'on essaie de dire, qu'à mon avis, franchement, c'est beaucoup plus facile avec sa langue maternelle qu'avec la langue de l'autre. Ce n'est pas une question de culture littéraire. Ce n'est pas une question de « j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu tel ou tel auteur ». C'est une question de, finalement, oui, peut-être même que c'est vrai, c'est antérieur à la vie, je veux dire, à notre vie en tant qu'être biographique, savoir avec les limbes, savoir avec l'embryon, savoir avec tout ce que nous ne comprenons pas, qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui fait que nous parlons très souvent sans savoir quoi dire. Et moi, à un moment donné, dans cette opération, je me suis dit, mais finalement, nous autres intellectuels africains, surtout francophones, et là, on revient à la schizophrénie dont vous parliez au début. Notre schizophrénie est plus marquée que celle des autres. Et c'est comme si, se regardant dans un miroir, on voit deux êtres complètement différents. L'un à gauche, l'autre à droite, et ces deux êtres complètement différents, eh bien, c'est pourtant chaque fois nous-mêmes.
Une question peut-être plus politique maintenant, à propos du langage et peut-être de l'identité. Le président français, Nicolas Sarkozy, dont on a pu constater avec son discours de Dakar le mépris et la condescendance envers les peuples africains, est très préoccupé ici de la question de l'identité nationale. Alors pensez-vous que la langue est un des éléments fondateurs de l'identité ?
Boubacar Boris Diop.
Absolument. Regardez, moi je dis toujours ceci. Il a été très facile en Europe de créer une monnaie unique, qui est l'euro, mais que quelqu'un essaie de dire, oh, vous savez, en Europe, on peut quand même créer une langue unique. Aussitôt, l'édifice va voler en éclats. Si la langue n'était pas si importante, si elle n'était pas un aspect vraiment quasi incontrôlable et mystérieux de notre mémoire et de notre vécu, avec un petit effort, on pourrait faire quelque chose. Ça ne ferait pas de pli. Les gens comprendraient très bien. Mais il n'en est pas question. Moi, j'ai participé à une foire du livre il y a quelques années à Bruxelles. Une anecdote très intéressante. Il y avait un ministre fédéral qui est venu ouvrir cette affaire-là. Eh bien, il faisait son discours. Mais c'était deux phrases en flamand qu'il traduisait en français. Et c'était très curieux. Chaque fois, pendant tout le discours, j'ai demandé, mais pourquoi il fait ça? On m'a dit, non, s'il ne le fait pas, on a une crise politique. Et donc, voilà. Je crois que vraiment, Le marqueur d'identité le plus fort, c'est la langue. Et ce que j'observe, c'est qu'en Europe, tout le monde le comprend très bien. Et je fais une observation inverse, et ça mérite réflexion. En Afrique, tout le monde s'en fout. Quand je dis aux gens, mais attendez, le Wolof, c'est pour tout le monde. Non, j'exagère. Je vous dis que je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'amis écrivains, de très bons écrivains, des amis et tout, mais qui me disent, non, Boris, ça c'est un combat d'arrière-garde. On a le français, on fonce. On fonce dedans, on ne s'embarrasse pas du reste. Et les gens, ils sont très contents à l'intérieur de la langue française. Je ne prétends vraiment pas que les jours de la langue française sont comptés en littérature africaine. Non, ça c'est évident qu'on n'en est pas, on n'en est pas là. Mais honnêtement, je suis convaincu qu'il n'y a rien, et ça, c'est peut-être l'autre qui me l'a appris, hein, il n'y a rien de plus important pour vraiment se reconnaître comme membre d'une communauté que la langue. Et personne n'a trouvé à redire lorsqu'on a dit en France que oui, un des tests pour, voilà, si on veut la nationalité française, si on veut, etc., c'est la langue. Et je crois que ce n'est pas propre à la France, c'est un peu partout dans le monde.
C'est toi qui m'avais dit que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Toi, tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi, tu es parti en me disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé.
Dragos Ouedraogo, à propos d'interculturalité en francophonie, le secrétaire général actuel de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf, qui par parenthèse n'a pas souhaité s'exprimer dans cette émission, évoquait en 2005 l'idée selon laquelle la francophonie était essentielle pour prévenir les conflits ethnico-culturels en Afrique, quel était le facteur le plus important de la paix sur le continent africain. Qu'en pensez-vous? C'est une sorte d'autosatisfaction?
Ouais, je pense que c'est non seulement c'est l'autosatisfaction, mais qui n'est fondée sur aucun élément concret. Je ne vois pas en quoi la francophonie a pu constituer un facteur de paix dans les conflits aujourd'hui en Afrique. Si comparativement au Commonwealth, qui est le pendant britannique, hein, de la francophonie, au sein du Commonwealth, pendant longtemps, ils avaient inscrit la variable droit de l'homme dans leur mode de fonctionnement et de régulation des relations internationales, des relations entre les pays membres du Commonwealth. Au niveau de la francophonie, la question des droits de l'homme a émergé bien plus tardivement. C'est-à-dire, ce n'est que, on va dire, vers la fin des années 90 qu'on a commencé à parler des droits de l'homme au sein de la francophonie. Alors que dans beaucoup de pays qui relèvent de l'espace francophone, il y a eu des violations massives des droits de l'homme, compte tenu des régimes de dictature qui existent, pêle-mêle, je cite Omar Bongo du Gabon, il ne vit plus, mais il a longtemps régné sur le pays, il y a des morts au Togo, ainsi de suite. Il y a toute une... Et la société civile dans ces différents pays de l'espace francophone ont toujours posé des problèmes importants par rapport aux droits, aux libertés, etc. Mais on n'a jamais enregistré aucune condamnation des atteintes aux droits de l'homme au sein de la francophonie. Bon. Mais pour ne pas rester trop en décalage avec les réalités politiques et sociales dans ces pays, ils ont commencé à parler des droits de l'homme. Mais c'est resté au niveau du discours. Quant à la question de la paix, moi, j'ai jamais enregistré un rôle majeur joué par la francophonie dans la résolution des conflits qui ensanglantent bon nombre de pays. Bien souvent, c'est plutôt des instances de diplomatie et de relations d'État à État. Donc, on va couvrir tel chef d'État parce que bon, il appartient à l'espace francophone, mais on ne va jamais s'intéresser à ce que fait la société civile sur place pour exiger les droits de l'homme.
Alors, si ça n'est pas pour établir ou garantir la paix, quel est ou quel serait l'enjeu géostratégique de la francophonie aujourd'hui en Afrique ?
Ben, l'enjeu géostratégique, ça sert les anciennes puissances coloniales, notamment la France, la Belgique, et bon, le Canada n'est pas, le Québec n'est pas une ancienne puissance coloniale, mais on sent très bien qu'il y a des enjeux de géopolitique et des enjeux économiques. Et à l'intérieur de l'espace francophone, il y a souvent des rivalités entre la France et le Canada par rapport à l'influence réciproque qu'ils peuvent avoir dans les pays d'Afrique relevant de l'espace francophone. Donc pour moi, ça permet le rayonnement sur le plan international de la France. Pouvoir utiliser ces rapports privilégiés avec les pays relevant de l'espace francophone pour disputer sa place sur le plan international.
Du rayonnement culturel de la France, quel est aujourd'hui le rôle et l'influence des centres culturels français en Afrique ?
Dragos Ouedraogo.
Alors, les centres culturels français, souvent, de par les moyens qu'ils ont et des infrastructures dont ils disposent dans des pays où les États n'ont malheureusement pas développé une politique culturelle conséquente pour doter le pays de structures culturelles d'expression, des groupes, des troupes, etc. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, le centre culturel français demeure le seul espace d'expression de la vie artistique. Il y a très peu de pays où il y a des salles conséquentes, où il y a même des salles de cinéma, maintenant on en trouve plus. Ça devient le seul lieu d'expression de la vie artistique et culturelle dans ces pays-là. Bon. Maintenant, selon les directeurs qui sont à la tête de ces centres dans les différents pays, certains consentent quand même à laisser un espace d'expression aux troupes locales pour en faire un espace d'échange entre les artistes qui viennent d'Europe et de France et qui peuvent avoir des rapports d'échange avec des groupes locaux. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans beaucoup de pays, une bibliothèque conséquente où les jeunes peuvent aller lire et s'instruire, il n'y en a pas. Donc, les centres culturels français demeurent dans beaucoup d'endroits les seuls lieux où on peut aller consulter et emprunter des ouvrages. Donc, ce qui leur permet par ce biais-là de favoriser un certain rayonnement de la vie culturelle française, quoi. Là-dedans, on peut trouver des œuvres intéressantes, mais de façon quand même subtile, il demeure des pôles de domination et d'influence de la culture française. Dans ce qu'elle a de bon, c'est tant mieux, mais dans ce qu'elle a de pervers aussi, ça peut être dommageable pour le pays, quoi.
Des auteurs, des intellectuels, des éditeurs se mobilisent justement pour peut-être essayer de réunir quelques moyens afin de pouvoir éditer justement des ouvrages, les traduire et puis éditer des ouvrages dans ces langues maternelles des pays d'Afrique.
Je n'en connais pas personnellement. Je suis quelquefois tombé sur des ouvrages de contes qui font des éditions bilingues, mais ça reste quand même bien marginal. Et pour moi, ce qui est déterminant, c'est ce que dans chacun des pays, ce que bon, les linguistes, les intellectuels vont développer comme travail conséquent pour valoriser les langues nationales et pousser les États, les gouvernements à prendre des mesures pour vraiment valoriser ces langues dans l'enseignement, dans l'éducation et aussi dans la vie culturelle officielle, quoi. Si on développe sur un plan interne, avec une politique endogène conséquente, la valorisation de ces langues, le reste va suivre. Si je compare d'ailleurs les pays de l'espace francophone aux pays anglophones, dans des pays comme le Ghana, le Nigeria, pour ceux que je connais le mieux, les langues nationales ont quand même plus d'importance, que ce soit dans les écoles, dans les établissements secondaires et dans les universités. Il y a une place importante accordée aux langues nationales. Des ouvrages sont édités dans les langues, ces langues sont enseignées, etc. Et comparativement à ce qui se fait là-bas dans les anciens les pays relevant de l'espace francophone, c'est vraiment, la comparaison montre tout de suite que du côté francophone, il y a peu d'efforts de fait, quoi.
On parlait à l'instant de littérature, mais parlons aussi un peu de cinéma, puisque Dragos Wedraogo, vous êtes cinéaste. En quelle langue sont réalisés les films qui sont produits en Afrique de l'Ouest, et quelle incidence a la langue sur la distribution de ces films?
Alors, en général, beaucoup de cinéastes font les tournages dans les langues nationales, et ensuite c'est sous-titré pour la diffusion. Bon. Mais il arrive aussi que quelquefois, pour la recherche des fonds et de financement des films, certains fonds que d'organismes publics que nous sollicitons en France pour avoir le moyen de faire les films, il y a des clauses qui exigent parfois que dans le film, la langue française apparaisse, quoi. Donc ça fait que on est obligé de faire quelques compromis, quelques concessions pour obtenir des financements, et donc on peut faire intégrer la langue française dans le film. Après, si une langue, par exemple, comme le bambara est utilisée dans un film, ce film peut circuler dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Moi, personnellement, mes films, je les fais tourner dans les langues locales, principalement le bambara, quelquefois le mouré. Et un film tourné en langue bambara peut circuler dans pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une langue qui est parlée au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, en Casamance, en Gambie, et même en Guinée-Bissau, en Sierra Leone. Or, Sierra Leone, Gambie, tout ça, c'est des pays considérés comme anglophones. La Guinée-Bissau, lusophone, et les autres francophones, mais la langue bambara transcende ces anciennes, ces frontières-là. Donc le film peut être distribué dans ces différents pays sans problème, quoi.
Sur la distribution des films, justement, des réalisateurs africains en France, vous trouvez qu'elle est suffisante ?
Non, elle est très marginale, parce que nous n'avons pas véritablement de réseau organisé de distribution de nos films, ni en Afrique, ni ici. Ce qui fait que, bon an, mal an, les seuls circuits où nos films peuvent être vus, c'est dans des festivals. Mais les festivals, ça touche pas le grand public, ça touche les cinéphiles, les spécialistes du milieu du cinéma, ça touche pas le grand public. Mm-hmm.
Boubacar Boris Diop.
Pour conclure cet entretien, et vous sembliez très optimiste sur l'avenir de la langue française dans les pays d'Afrique, mais aujourd'hui, 50 ans après ses indépendances et à l'ère de la mondialisation, est-ce que cette langue française n'est pas complètement en perte de vitesse ?
À ça, je m'en rends bien compte à partir de l'Afrique du Sud. Et puis voilà, quand on voyage beaucoup, on se rend compte que oui, que tout le monde parle anglais. Autant les Français avec les centres culturels, avec les alliances françaises, avec l'ensemble francophone. Se battent avec TV5, avec RFI, que sais-je, se battent pour défendre la langue française. Autant, bon, ben, voilà, la langue anglaise, elle est juste sûre d'elle-même. Voilà, elle est parlée. Il n'y a absolument pas besoin de la soutenir parce qu'elle n'est pas sur le point de tomber. Toutes ces actions de soutien pour la langue française, c'est parce que vraiment, on sent que la force d'attraction de la langue anglaise est irrésistible.
Est-ce que cette langue anglaise, aujourd'hui, c'est la langue d'un nouvel empire qui viendrait remplacer l'ancien empire colonial français ?
Oh, non, je ne pense pas. Voilà, c'est-à-dire que on n'est pas enfermé dans la langue anglaise ou la langue ou la langue française. C'est d'abord nos langues maternelles. Je pense que nous devons surtout dealer avec ça. Je pense que vraiment, dans chaque pays africain, il faudrait qu'il y ait la volonté politique de développer les langues du pays. L'une d'elles, bon, ce ne sera pas facile, hein, parce que c'est justement, la question est tellement sensible. Voilà, l'une d'elles pourra s'imposer, mais il ne faut pas se hâter, ou alors il faut se hâter lentement. Et maintenant, après, eh bien, quand on est bien adossé à sa propre langue, et à partir de là, ben voilà, on choisit le français, on choisit l'anglais. La différence entre, par exemple, les intellectuels anglophones et nous, les écrivains anglophones, à l'exception du Kenyan Ngugi wa Thiong'o, ils ne parlent pas beaucoup de la langue. Rien, parce que tous, ils ont appris leur langue maternelle à l'école, ils la maîtrisent, ils écrivent indifféremment en anglais ou en yoruba. Il y a cet aller-retour que l'on ne trouve jamais chez nous. Et donc, au fond, je pense que ce qui a sauvé la langue anglaise, c'est précisément cette espèce de « Ok, voilà, l'anglais est là, vous en voulez, vous le prenez, mais en même temps, dans le système colonial britannique, à l'école, on apprenait les langues africaines. Et le problème avec la langue française, c'est que mais elle est trop exclusiviste. Je veux dire, moi, j'étais gamin et il y avait un jeu qui s'appelait à l'école le symbole, c'est-à-dire que si on te prend en train de parler ta langue maternelle, tu es puni, tu es frappé, voilà, il y a une espèce d'infamie dans le fait de parler sa langue maternelle. Pendant 132 ans, en Algérie, la langue arabe a été interdite. Il n'y a jamais rien eu de tel dans le système colonial britannique.
Merci beaucoup, Boris Boubacar Diop, de nous avoir accordé ces quelques moments d'interview depuis Johannesburg, où vous résidez en ce moment.
Ah, 1960-2010, aujourd'hui la globalisation est à l'œuvre en Afrique comme partout. Alors, avec quelles conséquences particulières en Afrique est-ce que le français va être remplacé par le chinois ?
Dragos Ouedraogo.
En tout cas, le français, il est menacé, ça. Ouais, il est menacé parce que reste la globalisation, et puis c'est les rivalités aussi entre les grandes puissances pour s'implanter en Afrique. Et on voit que la France est en perte de vitesse dans son ancien précaré. Même en dehors de la Chine, les Américains, les Allemands, les Japonais, il y a des rivalités entre toutes ces puissances pour s'implanter et même évincer la France dans ses anciennes zones, dans ses anciennes zones d'influence. Et avec la crise, comme elle a moins de marge de manœuvre pour défendre ses positions, ça lui est disputé par d'autres. Et toutes les grandes puissances savent que utiliser la langue et la culture comme vecteur pour susciter l'adhésion des populations locales, c'est un créneau important. Ils multiplient les initiatives culturelles, ils multiplient les cours de langue, ils multiplient les offres de bourse à des étudiants, à des intellectuels pour créer aussi une élite qui leur est favorable. Donc il y a tous ces enjeux-là qui se jouent aujourd'hui sur le continent africain. Et donc ça ébranle les positions de la France dans ses anciennes colonies, quoi. Mais pour moi, de toute façon, les peuples d'Afrique n'ont pas à choisir tel impérialisme pour tel autre. Les peuples d'Afrique doivent affirmer leur véritable indépendance, leur véritable souveraineté pour promouvoir des politiques de développement conséquentes qui améliorent les vies des populations. Bien sûr, aucun pays ne peut se développer dans l'autarcie. Donc il faut développer les échanges tous azimuts avec tout le monde, mais de façon égalitaire, pas sous la forme des échanges inégaux tels qu'on les voit à l'œuvre aujourd'hui, quoi. On a affirmé notre indépendance, notre autonomie sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, et développer des rapports d'échange avec les autres cultures, les autres civilisations dans le monde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est plutôt ce à quoi on assiste. C'est vraiment le pillage effréné des ressources de l'Afrique, donc qui regorge évidemment de matières premières bien convoitées. Mais ce qui se passe, c'est toujours au détriment des populations qui s'enfoncent toujours plus dans la grande misère et la pauvreté, quoi.
Pour conclure cet entretien, Dragos Ouedraogo, comment est-ce que vous percevez les manifestations qui sont proposées à l'occasion de ce cinquantenaire des indépendances africaines? Comment est-ce que vous le percevez en France et peut-être aussi en Afrique?
Bon, d'abord, si on remonte à la genèse de ces célébrations, elles sont quand même téléguidées de l'Élysée. Donc c'est l'Élysée qui décide qu'on va célébrer le cinquantenaire des indépendances et qui donne les orientations de comment ça doit se faire. Et Jacques Toubon a fait le tour des capitales des pays d'Afrique pour proposer ce que l'Élysée a décidé de faire. Voilà. Donc c'est de l'ordre de la célébration, de la ritualisation, du festif, mais les véritables enjeux des problèmes auxquels sont confrontés les peuples d'Afrique aujourd'hui ne vont pas être abordés lors de ces célébrations. Et donc, pour moi, en tout cas, tout ce qui est fait officiellement dans ce cadre-là, que ce soit dans nos pays, en Afrique, que ce soit ici, en France, moi, je les considère comme vraiment une insulte au peuple d'Afrique. Alors qu'on sait qu'il y a la France-Afrique avec ses réseaux mafieux, ses politiques de pillage de nos ressources, et puis d'oppression des peuples. Et en même temps, on organise des trucs festifs pour dire que nos pays sont indépendants. C'est une insulte au peuple.
Merci Dragos Ouedraogo, anthropologue et cinéaste, ainsi qu'à l'écrivain Boubacar Boris Diop. Remerciements aussi à l'espace Saint-Gor de Verson en Normandie
pour l'aide précieuse à la réalisation de cette émission. Indépendie et francophonance, c'est fini. Mais vous pouvez retrouver cette émission ainsi que l'ensemble de la thématique 50 ans d'indépendance africaine et après, c'est sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.